sous la coupole. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Monsieur le Président, Monsieur Perpétuel, Monsieur Chancelier, Monsieur Chancelier, mes chers amis, chers confrères, c'est un sujet essentiel, la question du pouvoir dans la Bible, parce qu'on a le sentiment que toute la Bible, c'est une histoire de guerre de pouvoir. Et pour définir la façon dont le pouvoir se transmet, on est obligé de passer par l'idée d'essayer de réfléchir sur ce qu'est le pouvoir. Qu'est-ce que le pouvoir dans la Bible ? La réponse peut paraître simple, et peut-être étendue à d'autres domaines, c'est la capacité d'un homme ou d'un groupe d'hommes et de femmes à conduire les Hébreux vers le destin que le Créateur, que Dieu leur a proposé. Puis à définir les moyens pour y parvenir, et enfin à édicter, à faire respecter les règles à suivre pour le parfait accomplissement du projet divin, toujours en faveur de l'homme. C'est ce principe. Dieu s'adresse à quelqu'un, homme ou femme, il y a des juges, il y a des prophètes, des prophétesses, Déborah, et il leur dit, vous allez faire ceci au peuple hébreu. Parle-t-on d'un pouvoir de droit divin pour autant ? C'est la toute-puissance divine qui gère toute l'histoire de la Genèse, les débuts de la création, qui donne à Adam et Ève la jouissance du paradis, de l'Éden, et qui leur donne aussi le pouvoir de désobéir. C'est un pouvoir très intéressant, le pouvoir de désobéir. Et tout au long de la Genèse, après les erreurs du premier début, donc, brouillon, appelons ça comme ça, et l'effacement du déluge, c'est à travers l'autorité de Noé, puis les patriarches, le pouvoir patriarcal, mais matriarcal également, que la volonté de Dieu s'exprime, de Noé jusqu'à Abraham, Isaac et Rebecca. Rebecca qui va changer le cours de l'histoire. Jacob ensuite, et la subtilisation du droit d'aînesse, donc du pouvoir. Droit d'aînesse égale le pouvoir aux dépens d'Ésaü. Comment le droit d'aînesse, c'est-à-dire la responsabilité d'incarner, pour faire honneur à notre nouveau membre, le mainstream du pouvoir, en tout cas de l'histoire du peuple hébreu, pourquoi ça passe d'Ésaü à Jacob ? Ainsi, le pouvoir passe à celui qui est le plus fin, le plus intelligent, au plus audacieux, parfois apparemment au plus dénué de scrupules. N'y voyons pas en tout cas la préfiguration de nos classes politiques. Parce que Jacob, adoubé par l'ange, c'est-à-dire par Dieu lui-même, change de nom et devient Israël. Il devient Jacob et Israël, c'est le seul dans la Bible, qui change son nom et récupère également son ancien nom. Lorsque Avram s'appelle Avraham, il s'appelle tout le temps Avram par la suite. Lorsque Sarai s'appelle Sarah, elle s'appelle tout le temps Sarah. Jacob devient Israël, mais s'appelle de temps en temps aussi Jacob, comme si son pouvoir était toujours contesté, le pouvoir incarné par le nom, son nouveau statut. En tout cas, on a le sentiment que Dieu privilégie les forts moralement, au détriment des forts physiques. C'est le combat entre Jacob et Ésaü. Ésaü est présenté comme étant un colosse très fort qui s'est chassé. Jacob, c'est un jeune qui passe son temps dans les tentes, dit le verset. En gros, il passe son temps dans les jupes de sa mère. Mais il est fort moralement. Dieu privilégie les forts moralement, les audacieux, ceux qu'il sait à même d'assumer son dessein pour son peuple. Mais c'est après, bien après, que Jacob et sa descendance aient migré en Égypte pour survivre à la famine, qui est crue et multipliée, qu'ils aient été réduits en servitude, que Moïse est investi par Dieu, et avec l'aide de son frère Aaron, va les entraîner à la recherche de leur liberté, puis de la terre promise. La Bible, quand je dis la Bible, là en l'occurrence je parle essentiellement des quatre livres, depuis l'Exode jusqu'au Deutéronome, disons globalement le Pentateuque, on exclut la Genèse puisque Moïse n'y est pas né encore. La Bible, c'est l'histoire de Moïse et des Hébreux, et les Hébreux lui ont fait confiance en le contestant. Ils vont le contester très régulièrement. Et s'il n'y a pas de gilet jaune dans la Bible, c'est simplement qu'il n'y a pas de rond-point dans le désert, en réalité. Mais il est contesté en permanence. C'est une idée fausse de se dire que Moïse dirige le peuple dans le désert. Pas du tout. ils lui font sans arrêt des reproches. Il y avait des poissons gratuits en Égypte, il y avait des concombres en Égypte, et puis il y avait quoi ? Il n'y avait pas assez de tombes en Égypte pour nous faire mourir dans le désert. Des contestations qu'on a l'impression d'être très contemporaines. Mais après cette lente et difficile progression qui va durer 40 ans à travers un désert hostile, cette espérance aussi, c'est dans cet exode-là que s'établissent les règles du pouvoir qui régissent le peuple hébreu et structurent son accomplissement, y compris par la suite. Oui, c'est un pouvoir de droit divin. Le pouvoir dans la Bible est un pouvoir de droit divin. Le Créateur est omniprésent, dans le buisson ardent, à l'œuvre dans les 10 plaies d'Égypte, dans l'ouverture de la mer Rouge, avec la manne qui nourrit les Hébreux quotidiennement, la source d'eau qui les suit, partout. Dieu confie l'autorité à Moïse pour les 10 commandements, pour l'organisation du camp. Quand Moïse lève les mains et qu'il l'emporte contre les Amalécites, c'est aussi Dieu qui est à l'œuvre. Mais il confie cette autorité à un groupe d'hommes, car Dieu sait que sa parole serait inaudible si elle n'était pas transcrite, c'est-à-dire partagée et retransmise. Un verset de la Bible dit « Personne ne peut entendre ma parole et vivre ». Il faut donc des truchements pour édicter pour les hommes, pour nous, cette parole. Ce n'est que lorsque Moïse écrit lui-même les tables de la loi, les secondes, car les premières écrites de la main de Dieu sont littéralement insupportables par les hommes. Les hommes n'arrivent pas, dans notre imperfection, à supporter la perfection de ces tables écrites par Dieu. Elles sont brisées, et Moïse lui-même va réécrire les secondes, mais écrites par Moïse, elles deviennent acceptables, supportables, je dirais plutôt, pour nous. Et c'est lorsque Moïse écrit lui-même ces tables de la loi, sous la dictée de Dieu, certes, mais c'est lui qui les écrit, eh bien, c'est là que les commandements deviennent intelligibles pour l'homme. Mais de quelle autorité, de quel pouvoir s'agit-il ? Est-ce qu'il s'agit de dominer, de diriger, de guider ? De quel pouvoir parle-t-on ? Du pouvoir spirituel, matériel ? Je vois déjà poindre les questions naïvissimes de certains de mes confrères qui sauront me faire préciser toutes ces notions. Mais c'est surtout le pouvoir de la parole. Parce que lorsque, dans l'Exode, Moïse dit aux Hébreux « N'ayez pas peur » devant la mer Rouge, avec une seule parole assez forte qui fait encore écho aujourd'hui devant nos propres peurs. C'est donc le pouvoir de la parole qui est le pouvoir qui va transcender toutes les transmissions de pouvoir dont la Bible va parler. Et pourtant, pouvoir de la parole pour Moïse qui est bègue. Moïse est bègue, la Bible en atteste, et il renâcle devant la mission et devant la tâche que lui confie Dieu. Pour parler clairement, il refuse. Moïse, je cite le texte, Exode chapitre 4, « Moïse dit à l'Éternel, « De grâce Seigneur, je ne suis pas habile à parler, car j'ai la bouche pesante et la langue embarrassée. » Dieu lui répond, « Qui a donné une bouche à l'homme ? Qui le fait muet ou sourd, clairvoyant ou aveugle, si ce n'est moi, l'Éternel ? Va, je te seconderai et je t'inspirerai ce que tu devras dire. » Mais Moïse est dur à la négociation et répond à Dieu, « Je t'en supplie, Seigneur, donne cette mission à quelqu'un d'autre. Il y a bien assez de personnes qui veulent être ministres pour que tu me forces, moi, à être ministre. Je n'ai pas envie. » Enfin, ça, ce n'est pas dans le texte. Mais le courroux de l'Éternel s'alluma contre Moïse et lui dit, « Eh bien, si c'est comme ça, c'est Aaron, ton frère, le Lévite, que je désigne. Oui, c'est lui qui parlera. Déjà même, il s'avance à ta rencontre et à ta vue, il se réjouira dans son cœur. » Et donc, brusquement, Moïse, parce qu'il refuse d'utiliser la parole, crée une nouvelle façon de gérer le pouvoir. Il crée une sorte de bicéphalisme du pouvoir. Il y a celui qui va recevoir l'inspiration, lui, et Aaron, qui sera son porte-parole, littéralement, c'est-à-dire celui qui va parler en son nom. Et Dieu continue, « Tu lui parleras, et tu transmettras les paroles à sa bouche, et moi, j'assisterai ta bouche et la sienne, et je vous apprendrai ce que vous aurez à faire. Lui, il parlera pour toi au peuple, de sorte qu'il sera pour toi un organe, et tu seras, toi, pour lui, un inspirateur. » La notion du pouvoir est là. On va partager le pouvoir, puisque tu ne veux pas l'assumer, et j'ai besoin de toi. Donc tu sauras, toi, comprendre, diriger, mais lui parlera pour toi. Et vous verrez, enfin, j'anticipe légèrement sur ma conclusion, vous verrez à quel point cette diarchie du pouvoir est essentielle encore aujourd'hui. Donc la parole vient de Dieu, elle est transmise au peuple par ceux que lui-même a désignés quasiment de force pour le guider vers la terre promise, vers le bien. Mais Dieu est toujours la source de ce pouvoir, au point que dans le Notre Père, vous voyez que je fais du benchmark et que j'étudie la concurrence, même si en réalité le Notre Père par nature est une prière complètement juive, dans le Notre Père, nos frères chrétiens ajoutent « Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire ». C'est bien de Dieu que vient toujours la puissance, le pouvoir. Et dans notre rituel, le rituel juif, dès que nous entendons par exemple le tonnerre ou quelque chose d'extraordinaire, l'éclair, nous entendons le tonnerre, on récite une bénédiction qui dit « Source de bénédiction sois-tu Seigneur, toi dont la force et la puissance emplissent le monde ». Tout ce qui se passe de l'ordre de la puissance relève de Dieu. Au point que si nous croisons, rencontrons un roi, un président, quelqu'un qui détient le pouvoir, nous récitons une bénédiction, source de bénédiction sois-tu Seigneur, qui a donné de ta gloire, c'est-à-dire de ton pouvoir, à un être humain. Une façon de reconnaître que tout pouvoir sur terre vient forcément de Dieu. Mais cette transmission, elle va être heurtée. C'est une chaîne classique avec des ruptures. La transmission se déroule de trois façons possibles, soit la bénédiction, soit l'onction, soit l'imposition des mains. L'idéal, la transmission idéale, c'est celle qui se déroule entre Aaron et son fils Éléazar. Aaron est grand prêtre, Dieu lui demande d'aller vers une montagne, il monte avec Moïse, avec son fils, Dieu demande à Aaron d'ôter ses vêtements, de les mettre sur Éléazar. Il voit donc son fils lui succéder, et on dit que c'est la mort idéale, comme un baiser de la bouche de Dieu. Parce qu'il a vu la transmission de son pouvoir. En fait, il se rend compte que son pouvoir est détenu sans heurts après lui. Beaucoup devraient s'inspirer de cette façon de transmettre le pouvoir, alors qu'en réalité, on a souvent peu conscience que la réussite de notre mission, là où on se trouve, ce sont souvent nos successeurs qui la garantissent. Mais cet idéal n'est pas toujours aussi linéaire et les choses sont beaucoup plus heurtées. Et je vais prendre 5 exemples de transmission pour montrer les différentes possibilités en fait, d'analyse du pouvoir. Noé. Noé a 3 garçons, Shem, Ham, Yafet. J'y vois une allusion très claire aux 3 royaumes, à Rome, Athènes et Jérusalem. Ham, si on traduit en hébreu, en français leur nom, Shem c'est le nom, le renom ce serait Jérusalem, Ham c'est la pulsion, ce serait Rome, Yefet c'est la beauté, ce serait Athènes. Ham, la pulsion, dénude, dévoile la nudité de son père. Bon, compte tenu du fait qu'après le père le maudisse, ce ne peut pas rester comme ça, dévoile la nudité de son père, c'est pas pour ça qu'on maudit son fils. Rashi, le grand commentateur champenois, explique qu'en gros, Ham soit a violé son père, ce qui n'est pas sympa, soit il l'a émasculé, ce qui n'est pas sympa non plus. Et donc, ce qui justifie la colère du père, la rage du père, parce que dans sa peur panique de refaire humanité après le déluge, il avait bridé toutes les possibilités de fonder une famille, et de croître et de multiplier comme Dieu le lui demandait, à 3 reprises. Et donc son fils lui dit « Qu'est-ce qu'on fait de nos pulsions ?» Et Noé va organiser une sorte de triumvirat, un pouvoir nouveau avec un triumvirat entre ses 3 fils, pour dire « Il faut que Yéphet, la beauté, réside dans les tentes de Shem, c'est-à-dire que la finalité de la beauté soit la bonté, le bien, et que les enfants des enfants de Ham, le 3e, servent les autres, c'est-à-dire que la pulsion soit au service du beau et du bon. » Voilà un système où il ne tranche pas, un peu à la manière d'autres rois dans la suite, le roi Salomon qui n'osera pas trancher entre ses enfants, Charlemagne qui n'osera pas non plus trancher clairement entre ses enfants, et donc en gros lui, plutôt que de laisser s'affronter et que le plus fort l'emporte, il décide de proposer un arrangement où chacun apporte ce qu'il est à un projet commun. Abraham a deux garçons, Ishmaël, le premier qu'il a avec Agar, puis il a un enfant, enfin Isaac, avec Sarah. Sarah, quand elle a enfin son enfant, elle renvoie Agar à la grande tristesse de Abraham, mais Dieu lui dit, tout ce que ta femme te dit, écoute-la. C'est assez traumatisant pour nous, les hommes, puisque finalement, c'est une façon de nous dire qu'à la fin, on écoute toujours ce que nous disent nos épouses, mais sur le principe, Dieu dit à Abraham, tout ce qu'elle te dit, fais-le. Pourquoi elle fait ça, Sarah? C'est quand même terrible. Elle demande à son mari de renvoyer son propre fils. Il faut comprendre que l'enjeu, c'est qui va incarner la suite de l'histoire du peuple hébreu, la suite d'Abraham. Est-ce que ce sera Ishmaël ou Isaac? Et le bonheur d'Abraham, lorsqu'il meurt, c'est au chapitre 25 de la Genèse, verset 9. Abraham meurt heureux, dit la Bible. Et les commentaires disent, oui, parce que ses deux enfants, Isaac et Ishmaël, se sont réconciliés. Et c'est dans cet ordre-là que le verset dit, car Isaac et Ishmaël l'ont enterré. Sous-entendu, Isaac en premier, reconnu comme tel par Ishmaël. Et là, on voit cette transmission du pouvoir comme la poursuite de la mission. L'enjeu pour Sarah, c'est qui pourra poursuivre réellement la mission d'Abraham. Elle pense, avec Dieu, que Ishmaël a une part aussi de l'histoire d'Abraham, mais pas la poursuite de la mission. C'est par Isaac que cette mission passera. Isaac lui-même, par la suite, a des jumeaux, Jacob et Ésaü. Si je le dis dans cet ordre, c'est qu'en réalité, Ésaü et Jacob sont nés dans ce sens. Ésaü le premier, Jacob qui le tient par le talon, mais profitant honteusement de la présence d'un spécialiste du droit anglais, je me suis laissé dire que chez les Anglais, c'était celui qui était conçu le premier qui était l'aîné, et donc en général celui qui est né le second. Donc, c'était pas si faux que ça. Je ne vais pas jusqu'à dire que la Bible est anglaise, je ne vous ferai certainement pas ce plaisir, mais on voit qu'il y a parfois un peu de vrai chez nos voisins d'outre-Manche. Et Jacob et Ésaü, dans le chapitre 25 de la Genèse, sont décrits de manière étonnante. L'un est un chasseur, l'autre est assis dans les tentes, un homme d'études. Encore une fois, qui va incarner le pouvoir? Est-ce que c'est l'action ou la réflexion? C'est une question aujourd'hui contemporaine. Dans notre section, par exemple la section économie, est-ce qu'on va prendre des universitaires ou plutôt des hommes ou des femmes d'entreprise? Est-ce que c'est l'action ou la réflexion qui l'emporte? Regardez, j'ai toujours trouvé ce passage-là bouleversant. Parce qu'au chapitre 27, le père qui est aveugle, Isaac, convoque son fils Ésaü. Il le préférait. Parce que quand on agit, on a toujours le sentiment de transformer le monde. Et donc, Jacob, il étudie, il n'y a pas de résultat concret de l'étude. Donc Isaac, le papa qui est aveugle, convoque son fils et lui dit « Prépare-moi à manger, de sorte que je te bénisse. » Mais la maman, Rebecca, entend cela, dit à son fils, le chouchou de sa maman, Isaac, Jacob, elle lui dit « Va préparer un repas comme ton père l'aime. » Et mais Jacob lui dit « Mais moi je suis glabre et mon frère Ésaü, il est très poilu. » Elle lui dit « Je m'en charge. » Et donc elle met la peau de l'animal sur son fils, de sorte que quand le père lui touche la peau, il la sent velue, poilue, et il dit « C'est bien toi, Ésaü ?» Il répond « Je suis moi. » Il ne dit pas « Je suis Ésaü », il dit « Je suis. » Jamais Jacob ne va mentir dans ce face-à-face avec son père. Et pourquoi elle fait ça? Pourquoi? C'est une question terrible. Pourquoi Rebecca avantage son fils, le fils préféré, au détriment de son aîné, qui est aussi son fils, mais son jumeau? Tout tient à un passage éminemment important pour la question que nous nous posons aujourd'hui sur la transmission du pouvoir, qui se trouve dans la Genèse chapitre 25 au verset 29. Ésaü arrive de la chasse, il est épuisé, et il voit son frère Jacob en train de faire un plat de lentilles. Et il lui dit, écoute, j'ai faim, donne-moi ton plat de lentilles. Alors Jacob lui dit, ouais, donne-moi quelque chose en contrepartie. Alors tu dis, c'est le verset de la Bible, « Voici, je vais vers la mort, à quoi va me servir le droit d'aînesse? Je te donne le droit d'aînesse, donne-moi ce plat de lentilles. » Et ils échangent le droit d'aînesse contre un plat de lentilles. La question qu'il faut se poser, C'est pourquoi un plat de lentilles et pas la poule au pot, ou je ne sais pas ce que notre perpétuel pourrait imaginer, mais en tout cas, non, pas un couscous, je ne pense pas que c'est la mode à l'époque, mais quelque chose. Pourquoi les plats de lentilles? Je vous propose une interprétation que j'aime beaucoup. Le plat de lentilles, c'est un plat de deuil. Ce sont des lentilles, c'est rond, les lentilles c'est rond, comme les œufs, comme tout ce qu'on prend dans notre tradition au moment du deuil, car la vie est un cercle permanent. Or, de qui prenait-il le deuil? Il prenait le deuil d'Abraham. C'était au moment de la mort d'Abraham. Donc Jacob fait le plat du deuil habituel. Et quand Ésaü arrive fatigué, qui se limite à ce monde matériel, le droit d'aînesse est une responsabilité d'aînesse pour la suite. Lui, il voit que l'immédiat. Et il dit à son frère, donc, « Moi, je veux l'immédiat contre la promesse d'une mission quelconque. Je veux l'immédiat. » Et donc, Jacob, dans cette transmission du pouvoir avec Ésaü, choisit la profondeur du temps et de la mission contre le côté immédiat de ce qui semble être le pouvoir, c'est-à-dire la possession de la nourriture et des lentilles, en l'occurrence. Et donc, juridiquement, Jacob est l'aîné. Et donc, lorsqu'il prend la bénédiction, il ne vole rien. Il prend ce qui est son dû. C'est en fait le pouvoir de l'intemporalité de la mission. Voilà ce qu'incarne cette transmission du pouvoir. Jacob, lui, c'est beaucoup plus compliqué pour lui plus tard. Jacob a 12 garçons, chacun chef d'une tribu, chacun pouvant revendiquer le pouvoir. Comment ça se passe? L'avantage, c'est qu'il y a 4 femmes. Il a 12 garçons avec 4 femmes. Il y a aussi des filles, mais ça se passe entre les tribus. Lui privilégie Joseph. Joseph est l'aîné de Rachel, sa femme adorée. Mais, et c'est très intéressant cela, oui, il va lui donner le pouvoir, et Joseph va avoir le pouvoir, comme il va le rêver d'ailleurs. Il va rêver que les 11 étoiles représentant ses frères vont se prosterner devant son étoile, que les 11 gerbes de blé vont se prosterner devant sa gerbe de blé. Mais ce sera par Judas que la royauté passera. Judas, c'est son 4e fils, le 4e fils de Jacob. Le premier Réhouven a échoué dans sa mission à protéger Joseph le petit. Il sera vendu par ses frères. Les 2 suivants, Simon et Lévi, sont des violents. Ils vont tuer tout le monde quand leur sœur sera violée. Et leur père va leur dire « Vous m'avez mis mal avec les voisins. » Donc ils ne peuvent pas prendre le pouvoir. C'est Yehuda, le 4e garçon de Jacob, qui va incarner la royauté. Mais Joseph va incarner quelque chose de l'annonce de la royauté. Voilà pourquoi dans les évangiles, par exemple, il y a 2 messies, le messie fils de Joseph et le messie fils de David. Le messie fils de Joseph ayant vocation à annoncer l'arrivée du messie fils de David. Ce qui va expliquer que dans la Genèse, il y a un tête-à-tête parfois violent entre Joseph et Judas, car les deux s'opposent pour savoir qui va incarner les temps messianiques. Pas exclusivement la royauté, mais qui va incarner les temps messianiques. C'est donc le pouvoir de la traduction du sens de la mission. Joseph va traduire la mission de son père à sa façon, par exemple en dirigeant l'Égypte, ce qui n'est pas une façon d'être le chef du peuple d'Israël, mais c'est une façon de donner un espace pour vivre pour Israël, alors que Yehuda, lui, va s'occuper surtout du peuple d'Israël. Et puis, on aborde maintenant non plus le Pentateuque, mais 2 passages de témoins assez émouvants. Le premier, bouleversant, entre Saül, le roi Saül, le premier roi d'Israël, et le roi David. C'est dans le livre de Samuel, au chapitre 16. Là, je vous demande vraiment de prêter attention aux mots du verset. Samuel est envoyé par Dieu à Bethléem parce que le roi Saül a démérité. Et Dieu dit à Samuel, « Va à Bethléem. » Samuel, il dit, dangereux cette affaire. Saül, c'est pas un rigolo, donc je risque beaucoup. Là-dessus, Dieu lui dit, t'as qu'à prétexter de faire un sacrifice, tu vas voir monsieur Ishaï, il a un fils, tu vas loindre, et ça sera lui le roi. Samuel va à Bethléem, rencontre Ishaï, il lui dit, présente-moi ton fils. Il lui présente son fils, l'aîné, un grand, fort, extraordinaire. Il a fait Polytechnique, il a fait l'ENA, il est ministre, il est député, il a fait tout le cursus qui va bien. Et Samuel lui dit, non, c'est pas celui-là. Bon, pas possible. Si, si. Bon, alors il lui présente le deuxième, qui a fait queue centrale, il a fait ensuite, enfin, il avait un peu moins, et ainsi de suite, troisième, quatrième, cinquième. Les sept, il n'y en a aucun qui convient. Et Samuel dit au père, c'est pas celui-là. Il dit, oui, j'en ai bien un petit dernier, mais il s'occupe du troupeau, va me chercher. Et on lui amène David, le petit dernier. Et Samuel dit, c'est celui-là, verset 13 au chapitre 16 de Samuel. Alors Samuel prit la corne d'huile et l'oignit au milieu de ses frères, et l'Esprit de Dieu descendit sur David à partir de ce jour et dans la suite. Donc il y a l'Esprit Saint qui descend sur David. Le symbole de ce pouvoir, incarné par l'onction, c'est l'Esprit Saint qui descend. Verset 14, le suivant. L'Esprit, au même moment, donc c'est le verset suivant, l'Esprit de Dieu se retira de Saül, et là c'est extraordinaire, et un esprit mauvais, suscité par Dieu, le frappa d'épouvante. Sorte d'hypocondrie qui fait que, brusquement, il voyait des complots partout. C'est très contemporain. Disons, en gros, c'est une maladie, encore une fois, très contemporaine, qui frappe tous ceux qui sont éliminés à un moment du pouvoir, et qui s'incarnent soit pour les uns ou les autres à vouloir absolument revenir, soit à ne jamais accepter la défaite, et même s'ils ont dit « je m'en vais ». Ce qui est très intéressant, là, c'est que même l'esprit mauvais qui se pose sur le roi Saül est suscité par Dieu. Sous-entendu, même le pouvoir d'opposition à David, parce que l'opposition de Saül à David sera terrifiante, il va essayer de le tuer sans arrêt. Et donc, pouvoir et contre-pouvoir viennent de Dieu. Or, il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir. Ça n'existe pas. Et la transmission se fait et est remplacée par autre chose. Et d'ailleurs, quand David lui-même, dernier cas que nous étudions, lorsque David lui-même va devoir transmettre le pouvoir, il a fait d'abord face à un putsch d'Absalom, son fils, conseillé par Achitophel, le conseiller qui lui avait dit « franchis le Rubicon ». C'est-à-dire que dans le pouvoir, il y a toujours une peur que le pouvoir se retourne contre nous. Lorsqu'on doit, c'est quelque chose de très, encore une fois, très contemporain, le roi David a donc ce putsch d'Absalom, son fils qui était extraordinairement beau, et tous les alliés d'Absalom n'osent pas vraiment quitter David. Parce qu'ils se disent, Absalom va se réconcilier avec David, et nous on se retrouvera gros gens comme devant. Alors Achitophel, le conseiller de David, dit à Absalom, franchis le Rubicon. Et qu'est-ce qu'il donne comme conseil ? C'est un conseil, encore une fois, assez étonnant. Il ne dit pas « envoie toutes tes vidéos ». Il lui dit « va et viole toutes les concubines de ton père ». Bon, bah aussitôt dit, aussitôt fait. Et donc tout le monde comprend que là, il n'y aura pas de pardon entre les deux. C'est une lutte à mort. Mais c'est une telle lutte à mort que finalement Absalom est pris d'ailleurs par ses cheveux dans des branches, puis transpercé par des javelots. Absalom est mort. Au premier livre des rois, chapitre 1, Adonias, l'un des fils de David, revendique le pouvoir, fait tout pour avoir le pouvoir, organise des cérémonies, des fêtes, des sacrifices, et tout le monde se dit, il sera le successeur. Tout le monde sauf Nathan, le prophète, qui va voir Bethsabée, et qui lui dit, écoute, soit tu laisses faire, et alors ce sera lui le roi, soit tu te bats un peu, tu expliques au roi, qui t'avait promis que ce serait ton fils Salomon qui lui succéderait. Donc va défendre ta cause. Bethsabée va défendre la cause de Salomon, elle parle pour Salomon, c'est le verset 30. Alors David jure que Salomon régnera après lui. Et c'est ce qui se passe. Et donc il y a une transmission, mais transmission par choix du prédécesseur, sur l'atteinte de la mission. Pourquoi l'atteinte de la mission ? Parce que la mission première du roi David était certes d'agrandir et de sécuriser le territoire du royaume d'Israël, mais c'était de construire le temple. Or, David ne pouvait pas construire le temple, parce que lorsqu'il le demande à Dieu, Dieu lui dit « tu ne peux pas, tu as du sang sur les mains ». Le roi David lui a dit « mais j'ai fait les guerres que tu m'as demandé de faire ». Il lui dit « je sais ». Et c'est toute la difficulté, la charge incroyable de nos soldats, encore aujourd'hui, qui, eux, font des choses qui leur font perdre leur innocence pour que nous puissions la conserver. Mais David, lui, avait perdu son innocence dans toutes les guerres qu'il avait dû livrer. Dieu lui dit, c'est ton fils qui construira ce temple. Et donc, Salomon est celui qui va construire le temple. Et donc, il est choisi par David parce que, un peu de la même façon que Abraham avait choisi Isaac plutôt que Ishmael, il est celui qui pouvait poursuivre la mission. Lorsque je reviens en arrière légèrement, je vous donnais des exemples. Mais on trouve aussi que le pouvoir qui s'installe est contesté. Je vous ai parlé des contestations de Moïse, je pourrais vous parler des contestations de quasiment tous les rois, tous les juges, je pense à Gédéon, Samson, tous les juges et les rois sont contestés. Mais la plus grosse contestation, celle qui est emblématique, c'est celle de Corée, qui, dans le désert, vient dire à Moïse, avec 250 acolytes, Moïse qui était son cousin, « Je suis le premier dans l'ordre de succession, et donc, c'est moi qui dois diriger le peuple. Et en plus, tu t'arroges tous les pouvoirs, c'est ton frère qui est grand prêtre, toi, tu es le patron, c'est pas possible. Donc, je veux être le chef. » Moïse dit au peuple, parce que Dieu le lui dit, « S'ils meurent normalement tous, c'est donc la vie, mais si un coronavirus, enfin, c'est pas comme ça que c'est dit dans la Bible, mais enfin, je veux dire, quelque chose d'anormal leur arrive, c'est que c'est moi qui l'ai voulu. » Et donc, brusquement, la terre s'ouvre sous Korach et les 250 acolytes, et ils sont tous engloutis. Vous pourriez vous dire, c'est bien, la question est réglée, il n'y a plus d'opposition, maintenant on peut voter. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et c'est là que je trouve extraordinaire, c'est que la transmission du pouvoir se fait en permanence avec une validation de ce pouvoir. C'est-à-dire que le grand débat entre pouvoir représentatif et pouvoir participatif, ou si vous voulez, engagement des uns et des autres, il y a une sorte de chemin de crête entre les deux. Oui, c'est Dieu qui décide que Moïse est le chef du peuple d'Israël dans le désert, mais Moïse a besoin de valider son pouvoir très régulièrement avec le peuple parce qu'il a du mal à trouver les mots. C'est toujours son problème. Il a du mal à trouver les mots. Et qu'est-ce que Dieu demande? C'est dans le chapitre 16 du livre des Nombres, verset 32. Dieu dit à Aaron, tu vas prendre un bâton pour chaque tribu, vous les mettrez dans l'Arche Sainte, et le lendemain, le bâton de celui qui fleurira, le bâton qui fleurira, sera le bâton de la tribu qui doit assumer la direction du peuple. Et le lendemain, c'est le bâton d'Aaron qui avait donné des bourgeons, qui avait fleuri, qui avait donné des amandes. Autrement dit, oui, il n'y a plus d'opposition, oui, Moïse est le chef, mais il a besoin de valider aux yeux du peuple, pas aux yeux de Dieu, aux yeux du peuple, ce pouvoir. Ce pouvoir n'est pas un arbitraire, il est toujours validé par quelque chose d'extraordinaire. Et on le voit avec, un moment clé, me semble-t-il, de l'histoire de la transmission du pouvoir. Parce que là, je vous ai parlé jusqu'à maintenant, sauf pour Noé, je vous ai parlé de transmission de pouvoir d'une personne à une autre personne. En réalité, Yitro, le beau-père de Moïse, au chapitre 18 de l'Exode, verset 13, vient dire à Moïse, juste après la sortie d'Égypte, tu ne pourras pas supporter ce peuple. Que faisait Moïse? Moïse, avec le peuple, avait quitté l'Égypte. L'Égypte a un système pyramidal. D'abord parce qu'il y a des pyramides, c'est physique, mais il y avait aussi un système pyramidal du pouvoir. Et donc Moïse fait l'inverse de tout ce qu'il y avait en Égypte, en se disant « rien de bon ne sortira d'Égypte ». Et donc, on dirait aujourd'hui, il a une gestion en râteau du peuple. Sauf que quand vous avez une gestion en râteau avec 600 000 personnes, c'est pas la même chose. Et donc Moïse se consacrait intégralement à répondre à chaque personne. Le beau-père de Moïse, Yitro, vient le voir en lui disant « écoute, c'est pas possible. Tu vas affaiblir ce peuple, tu vas l'épuiser et tu vas t'épuiser. Tu dois mettre des chefs de 1000, des chefs de 100, des chefs de 50, des chefs de 10. Chacun gère à son niveau et les plus grandes questions arrivent à toi. » Ce qui pourrait être une vision très contemporaine. Il faut, pour diriger un pays, un premier ministre fort, des ministres crédibles et forts, des syndicats représentatifs, des strates intermédiaires qui pilotent chacun et chacune leur partie, et pas faire tout remonter en haut. Vous voyez, Exode 18, moi, je dis rien d'autre que cela. Et en fait, qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Il lui dit, à travers les paroles de son beau-père, « Tu dois répartir le pouvoir. Il n'est pas pensable qu'une seule personne assume tous les pouvoirs. Ça n'existe pas. » Et donc, il apprend, dans cet équilibre, à trouver les mots. Et si lui ne les trouve pas, c'est Aaron qui les trouve. Donc vous voyez qu'il y a un binôme, Moïse-Aaron. Quand Moïse est seul, sans Aaron, quand Aaron meurt, je vous assure qu'il y a des manifestations permanentes. Permanentes. Quand Aaron est seul, parce que Moïse est sur le mont Sinaï, ça devient, c'est le veau d'or. Parce que Aaron ne sait pas dire non au peuple. Aaron, le peuple lui demande quelque chose, il n'arrive pas à refuser. Et c'est simple de dire oui. On engage quoi ? On engage le futur et c'est pas nous en général. Et donc, par nature, il faut qu'ils soient les deux, Moïse et Aaron. Par la suite, c'est la même chose. Le roi et le pouvoir du prophète, le pouvoir de parole du prophète. Aujourd'hui, on dirait hein, le gouvernement, enfin, le pouvoir et la presse, le président, le premier ministre, l'opposition qui a un rôle aussi à jouer. C'est un équilibre. Et peut-être que la plus belle des transmissions, la plus incroyable, c'est celle entre Moïse lui-même et Josué. Qui peut succéder à Josué ? À Moïse ? Qui peut succéder à Moïse ? On a eu le même problème en France. Qui pour succéder au général de Gaulle ? Donc Josué n'est pas allé à Rome pour annoncer cela depuis Rome. Josué est l'adjoint, l'assistant de Moïse. Dieu a de la peine. C'est quelque chose de bouleversant, ce que je vais vous raconter, et qui est dans les mots. Cela se trouve dans les mots de la Bible. Dieu a de la peine d'imposer à Moïse de devoir arrêter. Moïse fait tout ce qu'il peut pour supplier Dieu, de lui dire « Laisse-moi continuer ». Et Dieu lui dit « C'est pas possible ». C'est un nouveau temps qui va s'ouvrir. Ce peuple a été esclave. Je me suis rendu compte qu'il ne pouvait pas rêver de liberté. Donc ils sont tous morts dans le désert. C'est une nouvelle génération qui va entrer en Terre Sainte. Tu ne peux pas être à la fois le chef du désert et le chef de la Terre Sainte. Il faut un autre dirigeant. C'est un autre temps qui s'ouvre. Alors, mais Dieu a de la peine quand même d'imposer cela à Moïse. Il dit, les mots ont une importance essentielle, « Place ta main sur la tête de Josué et il sera le chef. » Verset suivant. Moïse plaça ses mains sur la tête de Josué comme l'Éternel le lui avait ordonné. Et les commentaires disent, mais non, c'est pas vrai. Dieu a dit, place ta main, pas place tes mains. Réponse, Dieu a eu de la peine pour Moïse, il lui a dit, écoute, fais les choses à minima. Mais juste une petite main, comme ça, voilà, tu mets la main et ça ira. Moïse, lorsqu'il transmet le pouvoir, il le transmet entièrement. Sans arrière-pensée. C'est lui maintenant, c'est lui. Et ce symbole de ce pouvoir, et c'est quelque chose d'incroyable, se vit lorsque Josué, investi de la sorte, entre dans l'Arche Sainte, dans la tente d'assignation, avec l'Arche Sainte, il ressort, Moïse lui dit « Qu'est-ce que t'as dit Dieu ?» Et Josué lui répond, comme nous le disons dans les armées, « Je peux pas te dire, tu n'as pas à en connaître. » Et donc, Moïse dit « Il est temps pour moi de mourir, et il accepte la décision de Dieu. Parce que il ne peut pas empiéter sur le pouvoir de Josué en cherchant à savoir, en organisant une autre réponse que celle qui serait la sienne. En fait, on pourrait dire que le pouvoir, c'est une façon de faire avancer le monde, et il ne se transmet que s'il ne sert plus à celui qui le détient dans l'objectif du bien commun. Et on le voit avec Jonas. Jonas, c'est le prophète qui a comme mission de parler. Et lorsqu'il refuse de parler, c'est-à-dire d'utiliser son pouvoir, alors il entre dans le ventre du poisson, sous-entendu, dans le silence du monde. Si tu refuses d'utiliser le pouvoir qui est le tien, ou qu'il n'est plus utile pour la mission qui est la tienne, alors tu dois finir ta mission. Et il ne ressort du poisson que lorsqu'il décide, lui, librement, d'assumer à nouveau sa mission de parler. La transmission du pouvoir dans la Bible est donc toujours la recherche du bien commun. Je vous remercie.